Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour arpenter ensemble la planète. Notre programme jusqu'à 14h, c'est d'écouter le monde changer, aller entendre comment on vit ailleurs. Avec d'abord cette question, comment nous logeons-nous ? On est de plus en plus nombreux sur Terre et de plus en plus citadins, dans un environnement déjà très fragilisé. Et donc, par exemple, dans certaines villes d'Allemagne, les élus entendent favoriser les nouveaux habitats collectifs. Haro sur la maison individuelle, vous imaginez bien que ça fait jaser, nous serons à Hambourg. Au Japon, on a été interpellé par cette nouveauté dans le gouvernement. Il y a désormais là-bas un ministre de la solitude. Conséquence de la pandémie, l'an dernier, les Japonais morts par suicide ont été 6 fois plus nombreux que les victimes du Covid-19. On vous emmènera aussi en Afrique pour voir ce qu'il en est de la vaccination sur ce continent où les variants provoquent une deuxième vague de contamination inquiétante. Sénégal, République démocratique du Congo, Kenya ou Afrique du Sud, les situations sont très variables, mais on y retrouve quelques constantes. Un mélange de défiance et d'impatience face au vaccin et l'attente, justement, car les premières productions sont souvent accaparées par les pays riches. La patronne de l'Institut Pasteur de Yaoundé au Cameroun nous aidera à comprendre les défis auxquels fait face l'Afrique. Les carnets sont ouverts et on file tout de suite en Allemagne où nous attend Hélène Kohl.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Un pavillon, un petit jardin avec une balançoire ou peut-être un potager, c'est la forme d'habitat la plus répandue en Europe. Et surtout, quel que soit le pays, avant même la crise sanitaire, c'était déjà la forme d'habitat préférée, celle qui fait le plus rêver les gens sur le continent. 80% des Français, 75% des Allemands. Mais en Allemagne, justement, en pleine année électorale, le débat est lancé et fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que ce ne serait pas un modèle d'habitat en bout de course auquel il faudrait désormais renoncer? Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante en Allemagne. Expliquez-nous, chez vous, certains se demandent s'il ne faudrait pas arrêter de construire des maisons individuelles?
C'est ça, et tout est parti de Hambourg quand le maire du plus vaste arrondissement de la ville portuaire a décidé il y a quelques semaines de refuser toute demande de permis de construire de maisons individuelles. Il faut savoir que Hambourg, comme Berlin d'ailleurs, est une ville-État qui a le statut de Land en Allemagne, et donc le territoire de la commune inclut toute la zone de l'agglomération.
Un peu comme s'il n'y avait qu'une seule municipalité pour l'ensemble du Grand Paris.
Exactement. À Hambourg ou à Berlin, il n'y a pas de banlieue. Les quartiers résidentiels et pavillonnaires font partie intégrante de la ville, même s'ils sont loin du centre. Et c'est justement là, dans ces zones, que sous l'impulsion des écologistes, Hambourg a décidé de faire sa petite révolution sur les terrains constructibles. Désormais, hors de question de mettre des pavillons.
Pourquoi ? Alors, parce qu'on imagine que ce n'est pas vraiment populaire comme mesure. Pour quelle raison la prendre en pleine année électorale ?
En fait, la ville subit une énorme pression immobilière et Michael Werner-Bölz, le maire de l'arrondissement, un vert donc, explique qu'il fallait trouver des solutions.
Notre problème, c'est que sur un espace défini, nous devons loger de plus en plus de personnes. Hambourg est une ville qui attire beaucoup, les gens y emménagent car ils pensent y avoir un avenir. Donc c'était vraiment notre point de départ. Créer de l'espace habitable, mais à un prix abordable. Et autant que possible, penser de façon durable. Cette tendance se retrouve dans toutes les grandes villes, mais nous sommes les seuls à le dire si clairement. Dans une maison individuelle, les coûts énergétiques par mètre carré sont plus hauts que dans des habitats collectifs. Mais surtout, les quartiers pavillonnaires impliquent des temps de trajet beaucoup plus longs pour aller au travail, pour aller faire ses courses, etc.
En gros, si je traduis Hélène, le rêve des quatre murs à soie et du petit carré de jardin, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre.
Oui, et il a des chiffres à nous fournir. Les maisons individuelles occupent déjà 41% de la surface habitable en Allemagne, mais elles ne logent qu'un tiers de la population. Elles représentent 38% des émissions de CO2 du pays, rejetées essentiellement au moment de la construction. Il faut en moyenne 200 tonnes de sable et de gravier pour un pavillon, ce qui est énorme proportionnellement au nombre de personnes qui y habitent. Bref, pour lui, l'habitat urbain du futur, ce sont plutôt des petits immeubles de quelques étages, comme cette résidence qui vient d'être achevée sur l'un des 9 terrains constructibles de son arrondissement.
Voici notre plus grand secteur résidentiel, ici dans le nord de Hambourg, le quartier des Pergolas avec 1700 logements. Je crois qu'on voit ici comment on peut garantir, avec une architecture bien pensée, un haut standard de qualité de vie. Il y a beaucoup d'espaces laissés libres, beaucoup de verdure. Ici, il y a tout ce dont on a besoin pour très bien vivre.
Il évoque un haut standard de qualité de vie. On imagine donc que ce ne sont pas des cages à lapins. Comment réagissent les habitants, Hélène ?
Alors, l'affaire a même dépassé les frontières de Hambourg. Hein. Énorme débat ici depuis 3 semaines. Et autour du quartier, dans une zone pavillonnaire, justement, ça râle derrière les haies des jardiniers.
Au nom de quoi les partis doivent nous dire ce qu'on peut faire avec nos propres terrains ? Nous sommes très heureux ici et personne n'a le droit de nous dicter quoi faire.
Pardon, excusez-moi, mais à quoi ça fait penser ça ? La norme, ce sont des unités d'habitation comme dans le bloc de l'Est, des immeubles en kit où chacun a droit à son clapier, ses 10 mètres carrés de rigueur, tolérés par le comité central. Mais espérer y avoir une vie de qualité, ça, ce n'est pas prévu dans le programme.
Il y a quand même aussi quelques personnes qui rappellent la situation catastrophique du marché locatif dans la ville où les prix ont été multipliés par 2 à 3 en 10 ans.
À Hambourg, il y a des problèmes car c'est très difficile de trouver un appartement bon marché. Il faut se mettre sur des listes d'attente et ça peut durer plus de 3 ans. Ok, les pavillons sont très jolis, mais la municipalité doit penser aux familles.
Finalement, Hélène, on a l'impression que la démarche de cet élu est motivée par des raisons plus sociales qu'écologiques.
C'est en tout cas ce qu'avancent les Verts, hein, sous le feu des critiques pour cette mesure. Ils se défendent en plaidant le pragmatisme. Mmh. Écoutez Christian Kühn, le porte-parole fédéral du parti, pour les questions de logement.
Évidemment, on ne veut pas interdire les maisons privées. Ce qu'on souhaite, c'est utiliser les terrains disponibles de la façon la plus optimale, en construisant de manière à ne pas gaspiller ni l'espace habitable, ni nos ressources, mais aussi avec l'idée que les gens avec des petits ou des revenus moyens puissent accéder à la propriété, ce qui souvent n'est déjà plus possible.
Et Christian Kühn avance aussi une statistique éloquente à cause du vieillissement de la population ici en Allemagne. Une maison sur 5 sera sur le marché d'ici 5 ans dans des lotissements qui existent déjà, qui ont été bâtis dans les années 70 ou 80 par des gens qui sont aujourd'hui septuagénaires, voire octogénaires. Et donc, selon les Verts, il vaut mieux rénover ces habitats-là, refaire leur isolement notamment, plutôt que de construire encore et encore.
Est-ce que d'autres villes envisagent de suivre le modèle d'Hambourg ?
En fait, c'est déjà le cas, mais la thématique est abordée un peu différemment. Par exemple, en Bavière, dans certaines zones, on a stoppé l'étalement urbain pour protéger les terres agricoles. Autre exemple, à l'Est, les élus locaux déplorent, depuis la réunification, le manque d'infrastructures pour relier les villes entre elles. Ils se battent pour redynamiser leur centre-ville. Et donc, ce n'est pas pour accepter maintenant l'apparition de lotissements périurbains qui éloigneraient encore davantage les habitants des services.
Et Berlin, parce qu'on imagine que la pression immobilière y est forte, là aussi ?
Oui, et ça ne va pas s'arranger. Berlin prévoit une augmentation de sa population d'ici 2030 autour de 200 000 personnes. C'est comme si la ville entière de Reims déménageait dans la capitale allemande. Et la ville, qui est dirigée par une coalition de gauche actuellement, vient de céder 40 terrains potentiellement constructibles à la Fédération des associations caritatives et sociales pour qu'elle y développe des projets d'habitat abordables et mixtes. Et c'est ça, c'est le plus grand bonheur de Gabrielle Schlimper, la présidente de cette fédération qui regroupe l'ensemble des acteurs sociaux de Berlin.
Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Dans une ville où seuls les riches sont dans le centre ? Nous ne manquons pas d'exemples et ils sont tous mauvais. Ou bien voulons-nous préserver ce qui a fait la particularité de Berlin ? Berlin a toujours été, depuis les années 1920, un mélange de riches et de pauvres. Et nous nous battons pour que cette mixité qui fait la spécificité de Berlin perdure. C'est extrêmement important que les gens défavorisés continuent de trouver des logements abordables. Dans cette ville qui se gentrifie ultra vite, c'est très, très difficile d'en trouver. Et c'est pour cela que toutes les opportunités qui nous sont offertes, entre autres par la municipalité, de disposer du foncier, sont vraiment une bénédiction.
Hélène, c'est un débat éminemment politique et à 7 mois des élections, tout compte.
Oui, et vu la force des réactions, il semble qu'on tient là le premier grand thème de campagne. Les conservateurs marchent sur des œufs, ils vont sans doute avoir besoin des Verts pour gouverner. Donc officiellement, même s'il n'est pas question de reprendre une telle mesure, on évite de trop polariser la discussion. Plusieurs antennes régionales, dans l'Est notamment, ont même ouvertement dit qu'elles soutenaient cette démarche qui lutte contre l'étalement urbain. Les Verts, eux, ils font le buzz, c'est toujours bon à prendre. En plus, ce débat les positionne sur un créneau social qui leur fait défaut jusque-là.
Est-ce que le risque, ça n'est pas d'apparaître comme le parti de l'écologie punitive, comme on dit ?
Oui, alors ici en Allemagne, on dit le parti des interdictions. Vous savez, le parti qui dit non à la voiture, nein au charbon, la maison individuelle, les vacances en avion ou à la viande à la cantine, par exemple.
Ça me dit quelque chose.
Évidemment, alors ils savent évidemment qu'ils braquent une partie des électeurs, mais ils font le pari d'une évolution des mentalités. Vous savez, cette fameuse question de la viande à la cantine, elle a déjà donné lieu à une énorme polémique ici, et c'était il y a 2 élections. Donc en 2013, les Verts voulaient un jour végétarien une fois par semaine dans tous les restaurants collectifs, donc les écoles, mais aussi les entreprises. Eh bien, aujourd'hui, finalement, proposer un menu végétarien, c'est devenu la norme partout.
Ouais, et ça ne fait plus polémique. Vous avez un coup d'avance sur nous. Premier sujet de campagne, en tout cas, on l'aura bien compris, autour du logement dans les grandes villes à 7 mois des élections en Allemagne. Merci beaucoup, Hélène. À bientôt dans les carnets.
À bientôt.
À suivre, la très grosse déprime des Japonais, au point qu'il existe depuis quelques jours un ministre de la solitude au pays du soleil levant. On va vous raconter ça tout de suite. À peu près partout dans le monde, la pandémie accroît l'isolement. Confinement, couvre-feu, fermeture des bars ou des restaurants, la distanciation sociale aussi. Ce fichu virus complique indéniablement notre vivre ensemble et il peut conduire au repli sur soi. Il y a des pays où ça prend des dimensions dramatiques. C'est le cas du Japon où l'on retrouve notre correspondant Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
Vous êtes à Tokyo et chez vous désormais, innovation, terrible innovation en fait. Il y a un ministre de la solitude et c'est directement lié à l'épidémie.
Voilà, le 12 février, Tetsushi Sakamoto a été nommé ministre en charge de la politique de lutte contre la solitude et l'isolement. C'est son titre officiel. Mmh. Il était déjà membre du gouvernement et s'est vu confier cette nouvelle attribution. Alors, il n'a pas encore annoncé de mesures concrètes, mais son constat de départ, c'est ceci, je le cite, « Le lien social s'est terriblement distendu au Japon. Ça ne date pas d'hier, mais la pandémie a encore aggravé ça, en restreignant beaucoup nos possibilités de socialiser. »
Alors ce ministère a vu le jour juste après la publication de statistiques sur le suicide. Statistiques terribles. Hein,
oui, 20 919 Japonais ont mis fin à leur jour l'an dernier. C'est 750 de plus qu'en 2019 et ça fait environ 60 suicides chaque jour. Wow. Or, contrairement à ce qu'on croit généralement à l'étranger, le Japon n'est pas le pays du monde où l'on se suicide le plus. Il l'a longtemps été, mais depuis 2010, le nombre de suicides diminuait d'année en année. Jusqu'à l'apparition du virus, donc, qui fait de nouveau s'envoler les statistiques. Et le résultat, c'est que l'an dernier, ici, le suicide a tué 6 fois plus de gens que le coronavirus.
C'est la deuxième vague qui a été dévastatrice.
Oui, à la première vague, il y a un an, les Japonais avaient plutôt tenu le choc. Mais quand la deuxième vague a déferlé, à partir de l'été, beaucoup ont craqué. Certains mois, on a enregistré des hausses de 40% du nombre de suicidés par rapport à l'année précédente. Il y a donc eu un effet retard. Et en fait, le Japon avait déjà connu ça. C'est ce que rappelle ce responsable d'une association de prévention du suicide.
En 2011, après la catastrophe de Fukushima, les Japonais avaient tenu le coup moralement dans un premier temps. Mais 6 mois plus tard, le taux de suicide a commencé à s'envoler. Et puis, pendant très longtemps, il est resté à un niveau extrêmement élevé. Et ce phénomène inquiétant est en train de se reproduire.
Et parmi tous ces Japonais qui mettent fin à leur jour, Bernard, il y a énormément de jeunes et même parfois des enfants.
Oui, oui, le nombre de suicides de mineurs a doublé par rapport à l'an dernier. Chaque semaine, une dizaine d'enfants ou d'ados japonais mettent fin à leur jour. La pandémie a aggravé ce qui était une triste particularité du Japon. C'est le seul pays industrialisé où la première cause de mortalité des jeunes, ce ne sont pas les accidents de la route, mais le suicide. D'ailleurs, une étude sur la santé physique et mentale des enfants que l'UNICEF a menée dans 38 pays a montré deux choses. Pour la condition physique, les petits Japonais sont les champions du monde. Mais beaucoup sont très mal dans leur peau. En termes de santé mentale, ils sont les avant-derniers de ce classement. Seule la Nouvelle-Zélande fait pire.
Ce mal-être, on va l'entendre grâce à un témoignage que vous avez recueilli, celui d'un jeune que la pandémie a fait basculer dans l'isolement au point d'envisager le suicide.
Voilà, il a 19 ans, il habitait une petite ville de province et l'an dernier, il est monté à Tokyo pour aller à la fac. Il ne connaissait personne dans la capitale, mais il pensait bien se faire des tas d'amis à l'université. Ben non, le virus en a décidé autrement.
J'étais tétanisé à l'idée d'attraper ce virus et dévasté de voir combien cette épidémie a perturbé ma première année d'université. J'ai pas osé en parler à d'autres personnes. Tout le monde a tellement de soucis en ce moment. J'avais peur que ça soit mal pris, que j'en rajoute en déballant mes états d'âme. Donc je me suis muré dans le silence, dans mon stress. Je suis quasiment plus sorti de chez moi. De toute façon, je connaissais personne et j'en étais convaincu, personne ne pouvait m'aider. J'ai arrêté de suivre les cours en ligne, j'ai fui en me réfugiant dans une réalité parallèle, celle des jeux vidéo à longueur de journée et de nuit. Mais une sorte de vertige a fini par me saisir. Ma vie, cette vie de solitude et d'angoisse, n'avait aucun sens et valait mieux en finir. Je ne voyais pas d'autre issue tellement j'étais anéanti émotionnellement.
Voilà, le ravage des cours en distanciel et non plus dans les amphis. À ce propos, je fais une parenthèse, il existe une tendance venue d'Asie, de Corée du Sud au départ, mais ça s'est propagé en Chine, au Japon et même maintenant en Occident, aux États-Unis par exemple. Ça s'appelle les gongbang. Alors ce sont des étudiants qui se filment chez eux en train de bosser, de réviser et qui mettent en ligne leur live, un plan fixe. Hein, donc on entend juste les pages tourner, ça dure des heures. Et ces lives sont suivis par des milliers d'autres étudiants qui disent se sentir moins seuls comme ça, un peu comme s'ils étaient en bibliothèque. Fin de la parenthèse. Revenons au Japon, Bernard. On parlait des jeunes, mais les femmes aussi sont particulièrement désespérées dans le contexte actuel.
Oui, et d'ailleurs, c'est très nouveau au Japon. Mais l'an dernier, 5 fois plus de Japonaises que de Japonais ont mis fin à leur jour. Notamment parce qu'ici, ce sont surtout les femmes qui ont perdu leur emploi. Et dans ce pays qui sacralise le travail, perdre son emploi, c'est souvent vécu comme perdre sa raison de vivre. 2 millions d'emplois précaires ont été supprimés au Japon depuis le début de l'épidémie. Dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, etc. Des emplois qui étaient majoritairement occupés par des femmes. Or ici, ces petits boulots donnent rarement droit aux allocations de chômage quand on les perd. Donc beaucoup se sont retrouvés sans ressources et désespérés.
Mais en fait, Bernard, on peut dire qu'avant même l'épidémie, au Japon, il y avait déjà un terreau pour l'isolement, non ?
Oui, absolument. On peut rappeler que le Japon est le pays des hikikomori. Vous savez, ce sont ces gens atteints de phobie sociale, au point de ne jamais sortir de chez eux, donc de ne voir personne. On en compte plus d'un million ici. Mais plus généralement, un Japonais sur 7 vit seul. Ça fait 18 millions de personnes, dont beaucoup de seniors. Et d'après les enquêtes, un senior isolé sur 7 ne parle à quelqu'un qu'une fois tous les 15 jours.
15 jours sans parler à personne. Ouais. Alors que sans doute la période si difficile rend la parole plus nécessaire que jamais. Mais enfin, parler, ça ne va pas de soi au Japon. Hein. On ne dit pas beaucoup « je », c'est mal vu.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et cette culture du non-dit, évidemment, complique encore la prise en charge des personnes en souffrance psychologique. C'est ce que m'a confirmé ce travailleur associatif avec qui j'ai discuté.
Parler de soi, c'est difficile au Japon. L'individu est toujours prié de s'effacer devant le collectif. En plus, dans ce pays, la dépression nerveuse est souvent associée à de la faiblesse. En fait, c'est le regard de la société sur la santé mentale qui devrait changer.
Est-ce qu'il existe des associations de prévention du suicide au Japon, Bernard ?
Oui, il y en a beaucoup et elles font vraiment du bon travail. Par exemple, un travail de veille et d'intervention sur les réseaux sociaux. Parce qu'ici, depuis le début de l'épidémie, on dénombre sur ces réseaux, tenez-vous bien, 4000 messages chaque jour disant « je voudrais mourir ». Eh bien, ces associations traquent 24 heures sur 24 ces appels au secours sur les réseaux et y répondent immédiatement. Elles entament un dialogue avec ces personnes suicidaires pour éviter qu'elles passent à l'acte. En revanche, ce qui marche moins bien au Japon, c'est l'accompagnement psychologique en amont. Il y a des institutions très réputées qui prennent en charge, par exemple, les jeunes qui sont sur le point de basculer dans l'isolement, ou alors dans les conduites addictives, les jeux vidéo par exemple, comme l'étudiant qu'on a entendu. Mais ces hôpitaux sont si peu nombreux que les listes d'attente sont interminables. Et puis, globalement, l'accompagnement psychologique coûte assez cher au Japon, y compris à l'hôpital, parce que la Sécu rembourse rarement ce suivi qu'elle considère comme des soins de confort. Et cette seule expression dit bien les progrès qui restent à faire en termes de prise en charge de la santé mentale.
Effectivement, soins de confort. Il a vraiment du pain sur la planche, hein, ce nouveau ministre de la solitude, Tetsushi Sakamoto. Merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur japonais et à bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
À suivre, un peu de littérature étrangère qui nous embarque vers l'Australie, à tout de suite. Un livre dans le monde, cette semaine, la page culture des carnets nous plonge en littérature. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Sophie.
Et c'est un vrai voyage auquel vous nous conviez, vers de grands espaces, escale en Australie, avec un auteur mythique, enfin mythique, là-bas.
Oui, parce que chez nous, on ne peut pas dire que ce soit encore une superstar, malgré nos efforts.
C'est vrai, c'est vrai.
On avait déjà parlé de lui il y a 3 ou 4 ans. Je vous avais fait une chronique sur « À toute berzingue », l'histoire d'un couple dans une petite voiture perdue dans l'outback australien, poursuivi par un être bizarre et terrifiant, ça faisait très peur. Ouais. Et c'était super. Les éditions Autrement publient cette fois un recueil de nouvelles de Kenneth Cook, puisqu'il s'agit de lui. Et c'est un tout autre registre, c'est très drôle.
Mais c'est toujours dans le bush australien.
Le bush, oui, c'est-à-dire l'intérieur des terres, un espace géant où tout est possible, où il ne se passe tout et rien. C'est Crocodile Dundee, si vous voulez. Alors, il y a aussi des crocodiles ici, mais le recueil s'appelle « Le koala tueur ». C'est le titre de l'une des nouvelles, en fait. Je vous lis le début, vous allez sentir l'ambiance. « Je n'aime pas les koalas. Ces sales bêtes, aussi hargneuses que stupides, n'ont pas un poil de gentillesse. Leur comportement social est effroyable. Les mâles n'arrêtent pas de se tabasser ou de voler les femelles de leurs semblables. Ils ont des mécanismes de défense répugnants. Leur fourrure est infestée de vermine. Ils ronflent. Leur ressemblance avec les nounours est une vile supercherie. Il n'y a rien de bon chez eux. »
Tout le contraire de ce qu'on pense a priori des koalas. Mais alors, tueur, carrément. Donc là, le narrateur tombe sur un koala particulièrement dangereux.
En fait, il participe à un programme de protection pour déplacer les koalas vers une région où il y a plus d'eucalyptus. Il y va par curiosité, mais il se rend vite compte que déloger un koala quand il est accroché à une branche, ça va être très, très, très dur et très drôle, en fait. Parce que c'est ça, surtout ce recueil, un condensé d'humour Mireille Vignol est la traductrice du livre.
Ces histoires, elles sont toutes très bien tournées, elles ont toutes une très belle chute. C'est vraiment quelqu'un, un critique avait parlé de Maupassant avec le désespoir en moins et l'humour en plus. Ben voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment très drôle. Moi, je sais que beaucoup de gens m'en ont parlé après la publication de ces nouvelles, m'ont dit qu'ils riaient dans le bus ou dans le métro. Enfin, que c'était. On rit vraiment, on rit fort, on rit aux éclats. Et bon, le traduire, c'était que du plaisir, bien sûr.
Maupassant, carrément, c'est ce qu'il représente là-bas ?
Alors, peut-être pas à ce point-là, mais c'est un personnage de la littérature australienne, ça c'est sûr. Il a une vie rocambolesque. Il a d'abord été journaliste pour gagner sa vie. Ça n'a pas vraiment marché. Il a toujours été dans les affaires improbables. Il a toujours couru après l'argent pour survivre. Il a monté notamment un parc à papillons, une sorte de parc de loisirs, mais qui a été un fiasco total. Il s'est endetté pour toute sa vie. Mais il a eu beaucoup de succès avec son premier roman, 5 matins de trop. Il est devenu une sorte de figure et il s'est intéressé beaucoup, et c'est sans doute pour ça aussi qu'il représente bien l'Australie, il s'est intéressé et a parcouru l'outback, l'intérieur des terres, Mireille Vignol.
Il y a aussi cette ambivalence par rapport à l'outback, par rapport aux bush. Donc c'est en fait 85% des Australiens vivent près des côtes, donc ils connaissent pas tout cet intérieur du pays. Et il y a c'est un espèce de continent mythique, quoi. Et lui, il le connaît bien et donc il en même temps il l'adore parce qu'il s'est beaucoup promené, il adore les excentriques qu'il rencontre. Et en même temps, ça le désole parce qu'il y a quand même une espèce de c'est un désert culturel à certains niveaux. Si on accepte la civilisation aborigène, bien sûr.
Et donc, il rit de ça.
Ben oui, parce que ces personnages sont complètement déconnectés du monde, comme dans la première nouvelle du recueil, Alcool et Serpents. Le narrateur découvre Blackie, son pote, ivre mort, endormi dans son énorme vivarium
dans
à serpents.
Dans le vivarium.
Ouais. Et il va essayer de l'en faire sortir, mais il déteste les serpents, lui, et il est terrifié, on comprend un petit peu. Kenneth Cook est mort d'ailleurs dans l'outback, d'une crise cardiaque en 1987. Il partait en camping dans les terres.
Le koala tueur et autres histoires du bush. Donc, un recueil de nouvelles, chic chic, merci beaucoup. Et c'est publié chez Autrement, si j'ai bien compris. En plus, ça va nous changer les idées et nous faire marrer dans le bus, donc c'est très bien. Merci Nicolas.
Merci,
et à tout à l'heure pour La Voix est libre.
À tout à l'heure.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Les premières campagnes de vaccination ont timidement débuté en Afrique, qui avait plutôt bien résisté à la première vague de la pandémie, mais qui est désormais confrontée à une deuxième vague plus meurtrière, même si les situations sont très variables entre les 54 pays du continent. Les spécialistes estiment que l'Afrique aura besoin 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population et atteindre l'immunité collective. Beaucoup comptent notamment sur le dispositif COVAX, mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Alliance internationale pour les vaccins, une initiative censée permettre de vacciner 20% des personnes les plus vulnérables dans le monde. Alors les contrats sont passés, mais les doses tardent à arriver sur le continent. Il faut dire que les pays les plus riches ont un peu accaparé les premières productions de vaccins en commandant parfois de quoi faire vacciner 3 fois sa population ou plus de 3 fois. On va visiter 4 pays africains aujourd'hui et observer quelques-uns des défis qui se présentent là-bas. Et même 5 pays, puisque nous sommes accompagnés par Elisabeth Carniel, directrice de l'Institut Pasteur au Cameroun. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Yaoundé. Et au fil des reportages, vous nous éclairerez de votre très bonne connaissance du terrain. Alors notre première destination, c'est le Sénégal, où la vaccination a doucement commencé mardi dernier grâce à 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Le pays fait face depuis fin novembre à une hausse des cas de Covid-19. Le virus a fait plus de 800 morts, mais pour autant, la vaccination ne fait pas l'unanimité pour les Sénégalais. Beaucoup continuent à nier l'existence du coronavirus et ne se protègent pas. Et puis, on se tourne aussi plus facilement vers la médecine traditionnelle, notamment à base de plantes médicinales. Il existe dans la banlieue de Dakar l'hôpital traditionnel de Cœur Massar, où les tradis praticiens, et non des médecins, ont mis en place un protocole préventif contre la Covid-19. La correspondante d'Europe 1 au Sénégal, Margot Chauvin, s'y est rendue. On la retrouve d'abord dans le labo de l'hôpital. Reportage.
Là, c'est les feuilles de bambou qu'on va utiliser dans la tisane qu'on appelle la tisane BGM, qu'on utilise surtout contre les affections pulmonaires.
À l'hôpital traditionnel de Cœur Massar, Moussa Diallo tamise de petites feuilles vertes. Ici, on ne soigne qu'avec des plantes médicinales depuis 40 ans. Et c'est en les associant, les mélangeant, qu'un protocole contre la Covid-19 a été mis en place dans ce laboratoire au début de la pandémie mondiale. Une sorte de kit préventif clé en main.
Il y a des plantes qu'on utilise contre la grippe, comme l'extrait P. Donc là, vraiment, c'est une plante qui est très efficace. On a la lotion antiseptique, donc là c'est pour vraiment désinfecter les mains. On a une pommade aussi qu'il faut introduire dans les narines pour éviter de respirer certaines particules. Ça fait des miracles, on peut dire, parce qu'on voit vraiment des résultats. Il y a des patients qui reviennent avec vraiment une nette amélioration de leur santé.
Des tisanes, des bains de bouche, de la poudre, 7 produits naturels au total, tous récoltés dans le jardin de l'hôpital pour prévenir contre le coronavirus et renforcer le système immunitaire des patients. Au Sénégal, la médecine traditionnelle fait de nombreux adeptes. Mais alors maintenant que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé dans le pays, comment choisir ? Le vaccin ou les traitements naturels ? On passe une tête dans l'espace consultation.
Ne bloque pas. Aspire. Comme ça, tu craches. Les germes sortent en même temps. Voilà, c'est bien.
Fama Radiata inhale un mélange de plantes sèches qui lui brûle la gorge et les poumons. L'homme de 27 ans est asthmatique, il fait partie des personnes à risque s'il attrapait le coronavirus. C'est la deuxième fois ce mois-ci qu'il consulte les tradis praticiens de cet hôpital, et toujours pour les mêmes symptômes, crise d'asthme aiguë.
Si on me propose ici un traitement pour prévenir la Covid, et que ça peut m'aider à guérir, je veux bien. On m'a déjà donné comme une poudre blanche à mettre dans mon nez quand il est congestionné. Ça m'a fait beaucoup tousser. Maintenant, si le vaccin est là, je veux bien me faire vacciner, pas de problème. Parce que ça va faire diminuer les risques du coronavirus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, quand je vais me faire vacciner, on va aussi me donner des traitements gratuits pour que l'asthme disparaisse de mon corps.
La gratuité des traitements, un argument important pour les Sénégalais dans un pays où 45% de la population seulement bénéficie d'une couverture maladie. Le vaccin contre la Covid-19 est d'ailleurs administré gratuitement. Et il ne fait l'objet d'aucun tabou à l'hôpital traditionnel de Cœur Massar. Pour Djibril Ba, son directeur, se faire vacciner n'est en rien contraire aux soins qu'il pratique ici.
Le vaccin, c'est quoi ? C'est essayer de stimuler l'immunité de la personne. Créer des anticorps pour pouvoir combattre la maladie ultérieurement. Mais c'est ce que nous faisons aussi, nous surtout, on privilégie aussi de stimuler les organismes pour ne pas développer le Covid. Donc, mais personnellement, mon opinion est que tout le monde devait se vacciner ou alors personne ne se vaccine. Ça ne sert à rien qu'un groupe se vaccine et un autre non.
Pourtant, au Sénégal, le débat fait rage entre les pour et les anti-vaccins. Un exemple, dans l'est du pays, alors que la fièvre jaune a refait surface, les populations refusent qu'on les vaccine par peur que les doses utilisées soient en réalité celles contre le coronavirus. Une défiance qui a poussé les autorités à appeler à la rescousse les chefs religieux, notamment les marabouts des confréries musulmanes, des figures très influentes pour sensibiliser la population dans chaque quartier, chaque village. À Dakar, Margot Chevance, Europe 1.
Voilà pour cette petite visite à l'hôpital de médecine traditionnelle de Cœur Massar, près de Dakar. Elisabeth Carniel, je rappelle que vous dirigez l'Institut Pasteur de Yaoundé, vous êtes en ligne avec nous depuis le Cameroun. C'est un facteur important, cette complémentarité des approches thérapeutiques face au coronavirus.
Je crois qu'il ne faut pas déconsidérer du tout les traitements à base de plantes ou autres produits de la nature. C'est ainsi qu'on a découvert, par exemple, les antibiotiques et beaucoup d'autres médicaments qui ensuite sont produits de façon industrielle, mais qui dérivent au départ de produits de la nature ou récemment encore, enfin il y a quelques années, des traitements contre le paludisme en Chine et autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération. Et on sait que les populations qui vivent à grande proximité de la nature, par exemple les pygmées, connaissent très bien les écorces des arbres ou autres qui ont des actions bénéfiques. Les produits naturels sont une source importante de découverte de nouvelles molécules thérapeutiques. Maintenant, il s'agit de connaissances qui ont été acquises sur le long terme. Or là, dans le cas de la Covid, c'est une maladie apparue très récemment pour laquelle il n'y a aucun recul, aucune expérience. Et la tendance est de voir que tout est bon contre le Covid. Chacun y va de sa médecine propre, sans aucune preuve démontrée. Donc nous sommes face à des tonnes de médicaments qui sont proposés différents, naturels. Lesquels sont bons ? Il y en a peut-être qui sont actifs, par exemple pour stimuler l'immunité naturelle, et ça peut aider à lutter contre le coronavirus, mais rien de tangible. Et le problème, et c'est que nous voyons, les décès sont dus à des personnes qui arrivent à un stade vraiment trop avancé à l'hôpital, à un stade où il est plus possible de les sauver parce que ils se sont traités avec des médecines traditionnelles et ne sont pas venus assez tôt pour être pris en charge.
On a entendu l'importance de trouver des relais de communication dans la société. Margot Chevant se parlait des marabouts des confréries musulmanes au Sénégal. Et parfois, convaincre les populations, ça s'avère compliqué. Je vous propose d'écouter des Congolais rencontrés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un pays qui compte peu de morts de Covid-19, finalement un peu plus de 200. Et où porter un masque dans la rue vous rend suspect, m'a dit notre correspondante Nicolas X. Écoutez ses habitants.
Moi, personnellement, pour les vaccins, bon, tant qu'on n'a pas encore testé sur d'autres personnes, ça sera difficile qu'on les essaye sur nous, en tout cas. Parce qu'on n'a pas dit dans l'auditoire que non, il y a telle personne qui a été contaminée. Jusque-là, il n'y a rien. Alors, comment est-ce qu'on va se faire vacciner si on ne voit rien? Il y a d'autres qui souffrent de la malaria et du coup, dès qu'ils partent se faire examiner, du coup, on dit que non, il a les corona, on les met en quarantaine. Et pourtant, ce n'est même pas ça. Voilà un peu. Et pour les vaccins, bon... Si ce n'est pas obligatoire, moi, je ne vais pas me faire vacciner en tout cas.
Bon, l'Afrique en général, le peuple congolais en particulier, nous n'avons pas besoin de ce fameux vaccin qui est fabriqué par le prédateur européen. Il devait normalement commencer par l'essayer chez eux. Mais comme ils ont considéré qu'en Afrique, il y a des cobayes et que allons de l'autre côté pour tester ces vaccins cycles des cobayes, alors que nous sommes des humains comme autant que eux. C'est pourquoi nous disons non, que ces vaccins ne viennent pas ici. Parce que nous avons une très mauvaise histoire dans le passé par rapport au... Je peux parler du microbe ou poliomyélite, du vaccin sur les sida, si je peux me dire, mais l'expliquer en ces termes. Donc ce sont les mêmes Européens qui l'ont fabriqué et qui sont venus ici au Congo pour tester par le canal des singes. Aujourd'hui, nous ne savons pas contrôler les sida, les virus du VIH. C'est de même que le coronavirus qui a été conçu au vu et au su de tout le monde en Chine. Eux-mêmes qui l'ont conçu ne savent plus le maîtriser. Si vous regardez, le pays le plus touché, ce sont les États-Unis. Et donc, c'est aux États-Unis qu'on devait commencer à tester ces vaccins-là pour voir s'il est, il est fort ou il n'est pas fort. Et donc, l'idée d'amener ces vaccins du coronavirus ici est négative pour moi.
Voilà, Elisabeth Carniel, j'imagine que vous avez fait des bons. On vient d'entendre beaucoup de contre-vérités et des préjugés hérités de notre histoire aussi. L'idée n'est pas de revenir dessus, mais d'entendre qu'il y a des théories du complot qui circulent. Beaucoup de nos correspondants en Afrique m'ont dit « ici, on ne croit pas à l'existence du virus » ou alors « l'Europe veut faire de nous des cobayes ». Effectivement, les propos de deux médecins il y a quelques mois sur une chaîne d'info continue française disant qu'il faudrait expérimenter des vaccins en Afrique ont eu des répercussions dévastatrices. Il faut faire face aussi à ces discours-là. Il faut expliquer, il faut rassurer. C'est compliqué.
Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, ce qui est dit au début est tout à fait exact. C'est-à-dire que la Covid n'a pas touché l'Afrique et n'a pas frappé l'Afrique avec la même force que ce qu'on voit actuellement en Europe ou en Amérique. Mmh. Et donc, la perception du risque est beaucoup plus faible. Le taux de mortalité reste encore relativement bas et j'espère que ça va continuer comme ça. On n'est pas à l'abri d'un réveil, mais en tout cas, et beaucoup de formes sont asymptomatiques, pour diverses raisons d'ailleurs. Et ce qui fait que le risque est beaucoup moins bien perçu, au point que certains disent même qu'il n'y en a pas. Mmh. Cela rend la vaccination d'autant plus difficile que la population n'en voit toujours pas l'intérêt. Mmh. La sensibilisation de la population est plus difficile.
J'entends.
Mais il faut savoir que ce mouvement anti-vaccin ne se limite pas à l'Afrique.
Oui.
On le voit aussi en Europe, notamment, avec des pseudo-médecins scientifiques de renom, et que ces soi-disant médecins ou scientifiques, moi je les qualifierais de criminels dans leur façon de faire. Mais c'est tout le problème maintenant du complotisme et de tout ce qui va avec. Et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, par exemple, qui est un vaccin très utile, le cancer du col de l'utérus est un gros problème, a été en grande partie rejeté par la population avant même celui du Covid, parce qu'il y a une vraie méfiance. Donc moi, ma crainte n'est pas tellement que la population africaine serve de cobaye, puisque ça n'est pas le cas, ça a été complètement l'inverse. Mais c'est plutôt que l'Afrique n'ait pas suffisamment accès à ces vaccins en termes de temps et de quantité. Mais le risque n'est pas le vaccin, c'est l'accès au vaccin.
On va en reparler et on marque une courte pause et on vous retrouve, Elisabeth Carniel, pour évoquer d'autres enjeux de la vaccination en Afrique, justement. À tout de suite. Suite de notre petit dossier sur les débuts de la vaccination ou parfois l'absence de vaccination en Afrique avec des situations très disparates, on le disait. Nous faisons plusieurs étapes sur le continent, toujours en compagnie d'Elisabeth Carniel, directrice de l'Institut Pasteur de Yaoundé, qui est en ligne avec nous depuis le Cameroun. Je vous propose d'aller maintenant dans le pays le plus touché du continent, l'Afrique du Sud, qui comptabilise un peu plus d'un million de cas de Covid-19 et près de 50 000 morts. Bonjour Patricia Huon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Afrique du Sud, en ligne avec nous depuis Johannesburg. Alors, sur le front de la vaccination, 1 million de doses de vaccin AstraZeneca étaient arrivées il y a un mois, mais elles n'ont pas été utilisées encore, car rien ne se passe comme prévu.
Effectivement, les débuts de la vaccination en Afrique du Sud sont chaotiques. Le gouvernement sud-africain avait d'abord été critiqué pour son inaction, sa lenteur à lancer la campagne de vaccination. Il a alors acheté 1,5 million de doses du vaccin développé conjointement par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Des doses qui ont été achetées au prix fort auprès d'un laboratoire indien. Plus de 4 euros la dose, soit 3 fois plus que le prix payé par l'Union européenne. Donc 1 million de ces doses ont été livrées le 1er février. Réceptionné en grande pompe à l'aéroport de Johannesburg. Et puis, moins d'une semaine plus tard, alors que la campagne de vaccination devait commencer, les autorités sud-africaines ont été contraintes d'annoncer sa suspension, car les résultats d'un essai clinique sur le vaccin AstraZeneca ont été divulgués et celui-ci s'est montré en fait peu efficace, en tout cas contre les symptômes légers et modérés des cas de Covid-19 qui sont liés aux nouveaux variants identifiés en Afrique du Sud, un variant qui représente désormais 90% des infections dans le pays et qui est donc venu tout chambouler.
Du coup, le gouvernement sud-africain s'est procuré un autre vaccin.
Oui, alors que l'Afrique du Sud tente toujours de trouver un débouché pour ce stock encombrant d'1 million de doses AstraZeneca qui expire au mois d'avril, ouais. C'est maintenant avec le nouveau vaccin du laboratoire Johnson & Johnson que la campagne a pu débuter. C'est d'ailleurs le premier pays au monde à utiliser ce vaccin. Le laboratoire américain a cédé 500 000 doses appartenant à un stock de recherche à l'Afrique du Sud et la première livraison, 80 000 doses, est arrivée la semaine dernière. Elles servent actuellement à vacciner en priorité les travailleurs de la santé. 80 000 doses supplémentaires doivent arriver ce week-end. On est cependant encore très loin du compte, vu que le pays compte un peu plus d'1 million de travailleurs de la santé et que l'objectif est d'immuniser les 2/3 de la population d'ici la fin de l'année.
2/3 de 59 millions d'habitants, hein. La tâche est titanesque. Et alors le Johnson & Johnson, il est efficace celui-là contre le variant ?
Eh bien, le vaccin Johnson & Johnson, qui s'administre en une seule dose, a été testé en Afrique du Sud lors d'un essai à grande échelle dans lequel 1/3 des participants avaient plus de 65 ans, donc des personnes à risque. Et cet essai a montré que le vaccin est efficace à 85% pour prévenir les formes graves de Covid-19. Or, c'est ici le plus important, freiner les décès et le nombre d'hospitalisations.
Est-ce qu'il y a une attente des Sud-Africains, Patricia ? Est-ce qu'ils souhaitent être vaccinés ou est-ce que c'est plutôt la défiance, comme dans certains pays autres du continent ?
Alors le pays sort à peine d'une deuxième vague d'infection violente, les hôpitaux ont été saturés, la population sud-africaine a été traumatisée, le pays craint une troisième vague prochaine, donc si la méfiance d'une partie de la population demeure face au vaccin, beaucoup veulent y avoir accès. Ce qui a obligé les autorités à revoir leur stratégie, elles avaient critiqué ce qu'elles ont qualifié de nationalisme vaccinal, c'est-à-dire les négociations directes des pays avec les laboratoires, prônant une stratégie commune. Et pourtant, c'est bien ce que fait le gouvernement désormais, 9 millions de nouvelles doses Johnson & Johnson ont été commandées. Le gouvernement a également commandé 20 millions de doses du vaccin Pfizer et des négociations avec d'autres laboratoires, notamment chinois et russes, sont en cours. La stratégie de l'Afrique du Sud est de diversifier son portefeuille de vaccins en fonction des disponibilités et de l'efficacité face aux variants présents sur le territoire.
Merci Patricia pour ces explications. Je rappelle que vous nous parliez depuis Johannesburg. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Elisabeth Carniel, je rappelle que vous dirigez l'Institut Pasteur au Cameroun. Alors on le voit là, hein, en Afrique du Sud, certains vaccins s'avèrent moins adaptés à cause du variant, mais pas seulement. Il y a aussi, je sais que vous l'expérimentez, des contraintes spécifiques de terrain, notamment à cause des températures de conservation de certains, exigées par certains vaccins.
Tout à fait. Le choix d'un vaccin actuellement contre le Covid est difficile parce qu'on ne peut pas prendre en compte que la partie efficacité et innocuité qui sont deux éléments essentiels, mais en Afrique, il y a toutes les considérations pratiques. Donc la température de conservation, les vaccins à base d'ARN messager comme Moderna et Pfizer, BioNTech, doivent se conserver à très basse température et ça, c'est pratiquement rédhibitoire pour un grand nombre de pays.
L'autre contrainte, c'est ces vaccins qui nécessitent deux injections. C'est un peu compliqué sur certains terrains.
Tout à fait. Il est clair qu'un vaccin qui peut s'administrer en une dose, comme le Johnson & Johnson, est beaucoup plus intéressant en Afrique que deux doses à deux mois d'intervalle où ça devient très compliqué. Donc c'est une autre considération à prendre en cause. La disponibilité du vaccin, le coût également. Et là, ce qu'on entend et qui est assez choquant, c'est que l'Afrique du Sud soit obligée d'acheter le vaccin à trois fois le prix de l'Union européenne, alors que ce sont quand même des pays qui ont des ressources très limitées. Et ça, c'est également à prendre en compte. Quand il y a une grande population à vacciner, le coût du vaccin est aussi à prendre en compte. Donc, il est clair que certains vaccins sont d'office quasiment éliminés dans beaucoup de pays d'Afrique, comme ceux de Pfizer ou Moderna, à cause des problèmes logistiques déjà.
On va faire un dernier stop sur le continent africain, au Kenya. C'est là qu'on va maintenant. Ce pays d'Afrique de l'Est pourrait jouer un rôle central dans la vaccination en Afrique. Et on retrouve pour nous en parler Charlotte Simonard. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
On vous retrouve à Nairobi, la capitale. Alors ce rôle central, il pourrait être logistique et c'est plutôt inattendu. Grâce à l'industrie des roses, racontez-nous.
Et oui, vous savez, ici, c'est le royaume des fleurs coupées et des roses particulièrement. Entre 8 et 13 cargos partent chaque jour de l'aéroport de Nairobi direction l'Europe notamment. Et prochainement, l'idée serait que ces cargos reviennent au Kenya chargés de vaccins.
Des cargos qui sont adaptés hein, du coup au transport des doses vaccinales.
Oui, les vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson exigent une conservation entre 2 et 8 degrés, exactement comme les fleurs. Et le Kenya a donc cette expertise, hein, puisque chaque jour, des tonnes de fleurs sont transportées dans des camions frigorifiques vers l'aéroport de Nairobi, chargées ensuite hein, dans des avions cargo, eux aussi frigorifiques, avec une technologie de tracking qui permet de contrôler la température des roses jusqu'à Amsterdam, ce qui conviendrait parfaitement pour ces vaccins. Là. En revanche, pas pour les produits de Pfizer et Moderna qui doivent être conservés à des températures bien plus basses hein, grâce à des congélateurs ultra puissants qui ne sont pas disponibles ici en Afrique.
Nairobi se propose donc pour devenir un hub sur le continent pour aller chercher les vaccins où ils sont fabriqués et pour les acheminer vers l'Afrique.
Oui, l'aéroport de Nairobi est déjà un hub aérien important sur le continent. Il relie la plupart des capitales africaines. C'est une position que défend en ce moment Kenya Airways auprès de l'OMS. La compagnie kenyane est au plus mal financièrement, faute de passagers depuis le début de la pandémie. Et ses dirigeants misent désormais tout sur le cargo pour sauver l'entreprise. Ils ont même décidé de transformer des avions qui transportent en général des passagers en cargo réfrigéré pour agrandir leur flotte. Et participer ainsi à l'objectif de l'OMS de vacciner 20% de la population africaine d'ici la fin de l'année.
Il ne manque donc plus que les vaccins pour se lancer. D'ailleurs, on en est où au Kenya dans ce processus de vaccination de la population ?
Eh bien ici, Sophie, on attend toujours les 4 millions de doses dont la livraison était annoncée pour fin février. Nous y sommes aujourd'hui et toujours pas de date précise. Au total, le Kenya a commandé 24 millions de doses via le dispositif COVAX piloté par l'OMS. Le pays s'est donné pour objectif de vacciner un tiers de sa population d'ici 2022, soit environ 16 millions de personnes.
Voilà, et on n'imagine pas encore très bien comment tout ça va être possible. Le coronavirus, vous me disiez, Charlotte, a fait jusqu'ici moins de 2000 morts au Kenya et fait une centaine de cas de contamination, je crois, par jour. Hein. Merci beaucoup, Charlotte.
Oui,
merci pour cet éclairage. À bientôt.
Merci, Sophie. À bientôt.
Alors voilà, on parlait logistique. Vous parliez tout à l'heure, Elisabeth Carniel, du coût des vaccins, de leur disponibilité. Il y a vraiment une bataille en cours. Ce sera notre dernier point ensemble pour l'approvisionnement des vaccins. Ça vous inquiète, vous nous le disiez tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Le dispositif COVAX, il faut le reconnaître, est quelque chose d'unique.
Oui.
Et c'est la première fois qu'un tel dispositif est mis en place. On ne peut que féliciter et encourager ce type d'initiative. Maintenant, on va voir ce qui est vraiment effectif entre ce qui est dit ou pas. Ce qui est dit, c'est que par ce dispositif, 20% de la population de chacun des pays d'Afrique recevra les doses qui permettra de vacciner cette population. C'est vraiment quelque chose de très bien. 20% déjà, ça permettrait de protéger toutes les personnes les plus à risque de mortalité, surtout ayant des comorbidités. Et ça serait déjà quelque chose, une très bonne avancée sous réserve, encore une fois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de convaincre la population d'accepter le vaccin.
En quelques mots, Elisabeth Carniel, est-ce qu'il faudrait que les pays africains puissent produire le vaccin sur leur sol et donc que les propriétés intellectuelles de ces vaccins soient abandonnées, enfin soient cédées pour le bien de tous finalement ?
Oui, dans l'idéal, c'est bien évident que chaque pays puisse produire ses propres vaccins. Alors déjà, d'un point de vue purement pratique et logistique, produire des vaccins est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui nécessite un équipement compliqué et puis des normes surtout de sécurité des médicaments qui sont extrêmement strictes. Donc je crois que très très peu de pays en Afrique actuellement sont en mesure de le faire. Je sais que le Sénégal produit par exemple le vaccin contre la fièvre jaune à l'Institut Pasteur de Dakar, mais il y a encore très très peu d'endroits en Afrique où l'on peut produire des vaccins. Et puis, il faudrait, comme vous le disiez, que les sociétés soient prêtes à renoncer à leur propriété intellectuelle. Or là, la grande bataille...
C'est un gros enjeu, ça ?
Ah, c'est un vrai enjeu, parce que là, la bataille qu'il y a eu entre les différentes sociétés qui les produisent, le but est avant tout de pouvoir récupérer sur l'investissement qui a été mis, qui a été conséquent aussi, il faut bien le voir. Mm-hmm. Donc il est normal que ces sociétés puissent récupérer les bénéfices des efforts investis. Mais néanmoins, le but ensuite, c'est de pouvoir en bénéficier le plus longtemps possible et de leur dire, de leur demander de renoncer à leur propriété intellectuelle n'aurait aucune chance de réussir. Il faudrait que ce soit les États qui soient prêts à racheter en quelque sorte leur propriété intellectuelle, et je ne suis pas sûre que les États aient les moyens de le faire. Mmh. J'en doute même très fortement. Donc dans ces conditions, il est clair que le problème de la propriété intellectuelle est un obstacle majeur.
Merci beaucoup Elisabeth Carniel d'avoir passé ce temps avec nous sur Europe 1 aujourd'hui et de nous avoir éclairée. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut Pasteur au Cameroun. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et c'est Joseph Chovanec qu'on va retrouver maintenant pour une toute dernière étape des carnets en fil vers l'Autistan. Dernière balade des carnets, comme chaque dimanche, c'est en Autistan qu'on file maintenant. L'Autistan, c'est finalement un peu partout. C'est une manière de regarder le monde avec curiosité et surtout avec Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Philosophe, autiste Asperger et voyageur, vous nous embarquez aujourd'hui chez les gens dans leur maison.
Oui Sophie, à travers le monde, la plupart des gens vivent dans une maison. Et à côté de la maison principale, il y a quelque chose que l'on oublie. Alors cabanon, dépendance, niche, d'autres termes encore, hein, selon les lieux. Ça change du tout au tout. Et il faut précisément aller visiter l'annexe d'abord.
Alors, on ne parle pas simplement d'une cabane de jardin. Hein.
Oh non, et j'ai compris l'importance de l'annexe un jour en visitant l'île de Sakhaline, qui est aujourd'hui russe, mais naguère, elle était en partie japonaise. Et j'avais été surpris de voir dans la reconstitution d'un village traditionnel Aïnou, c'est le peuple local ancestral, une étrange construction en bois à proximité de la maison. Elle ne correspondait à rien de connu pour moi, hein. Et renseignement pris, c'était la maison de l'ours.
De l'ours ?
Oui, Sophie, chaque famille Aïnou avait traditionnellement son ours qui vivait non loin de la maison. Okay. Et ça m'avait laissé d'autant plus songeur que je venais de me balader longuement dans les forêts profondes de l'île où pullulent les ours, justement. En Islande, il n'y a pas d'ours. Mais là encore, je suis tombé sur d'étranges constructions à Ísafjörður, où j'étais pour des cours de langue.
Ça ressemblait à quoi, cette fois ?
Ben, les maisons traditionnelles avaient une drôle d'annexe qui était toujours disposée dans une certaine direction par rapport à la maison, mais dont le toit semblait absent ou endommagé. Hein. Le mystère s'est éclairci lorsque j'ai visité une bourgade à proximité, Ósvör. C'est un village de taille islandaise, à savoir 3 maisons. Hein. Et l'annexe servait à sécher le poisson, d'où l'absence de toit, mais aussi une certaine position du fait des vents dominants pour éviter les mauvaises odeurs.
Et d'où l'intérêt de l'éloigner de la maison principale. Hein. On imagine les fumées de poisson qui sèchent, ça ne doit pas être génial.
Oui, et parlant d'odeur, Sophie, hein, j'ai une sorte de perspective autistique marquée par la phobie des odeurs d'alcool. Okay. Et cela a été mis à l'épreuve plus d'une fois en Europe centrale. Parce qu'à côté des maisons traditionnelles, il y a un deuxième bâtiment, plus petit, où personne n'habite. C'est le bâtiment au-dessus de la cave à vin. Ce n'est pas comme par exemple en France où la cave à vin est un lieu souterrain de stockage, généralement sous la maison principale. En Europe centrale, il y a généralement une annexe dédiée lumineuse peinte en
blanc avec des motifs floraux sur les murs, parfois très jolis. Mais je n'ai pas été tout à fait exact. Dire que personne n'y habite, c'est une bêtise. Car justement, certaines personnes, notamment des hommes d'un certain âge, y passaient le plus clair de leur temps, du moins avant les changements socio-culturels de ces dernières années.
Ce serait entre la salle de dégustation et la salle de beuverie, en fait.
Ou le lieu culturel central du village, on peut dire plutôt comme ça. Pour moi, les caves à vin d'Europe centrale sont l'incarnation de mon rapport très ambivalent avec cette région du monde qui est à la fois censée être celle de mes origines, vu que mes parents étaient des réfugiés politiques issus de là-bas, que je connais théoriquement plutôt bien, mais où je ne me rends jamais voir que j'évite.
Alors, ça ressemblerait à quoi votre annexe idéale, Joseph ? Est-ce que vous l'avez rencontré d'ailleurs ?
Oui, il y a une petite dizaine de jours, pendant une balade aux Pays-Bas, sur une pente côté Adrée, à une cinquantaine de mètres d'une maison, il y avait une annexe bleue avec une paroi presque entièrement vitrée et dedans des centaines de cactus. Alors peut-être un autiste, en tout cas un passionné collectionneur avec qui on aurait pu s'entendre. Les annexes révèlent ce qu'il y a de fondamental dans nos vies. On pourrait le dire avec un dicton typiquement islandais. « Gardur er gratna sertir », c'est l'étroite bande de terre du jardin qui réconcilie les voisins.
Et bah donc, il y a aussi des voisins qui se disputent pour la branche de l'arbre d'à côté qui dépasse
Sophie,
sur leur terrain.
Il n'y a pas d'arbre en Islande.
Vous avez choisi la vision optimiste des choses, je vous reconnais bien là. Merci beaucoup, Joseph.
Merci, Sophie. À tout bientôt.
À dimanche prochain.
Europe 1, les carnets du monde.